divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans et Guy Bruit. Gérard Fussmann, bonjour. Je suis très heureuse de faire cette émission avec vous à l'antenne de l'Union rationaliste pour de multiples raisons. D'abord, parce que si vous êtes là, c'est que vous allez bien. Ensuite, c'est certainement grâce à vous que je suis entrée et restée à l'Union rationaliste, dont vous avez été longtemps secrétaire générale. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France dans la chaire d'histoire du monde indien. Vous avez été archéologue, professeur de sanskrit. Vous êtes un citoyen engagé et une conscience vive, à la tournure d'esprit fort originale. Et il faut bien toutes ces qualités pour tenter de voir un peu clair dans ce qui s'est passé à Paris en ce début janvier. Les attentats terroristes, les manifestations en réponse à ces attentats, la minute du silence, le jour du deuil national consacré aux 17 victimes de ces attentats, et les conséquences qui vont encore venir. Autant d'événements très complexes auxquels vous venez de consacrer un article que nous publierons dans les cahiers rationalistes dans le numéro 634 et sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Alors, la première question, Gérard Fussmann, que je voudrais vous poser est la suivante. Derrière la légitime émotion suscitée par ces attentats meurtriers émanant de jeunes gens fanatisés visant le 7 janvier Charlie Hebdo, le 8 janvier un agent de voirie et une policière à Montrouge, le 9 janvier, des clients juifs d'un magasin de la porte de Vincennes. Après les très grandes manifestations qui ont suivi, la presse a parlé d'unité nationale. Revenant précisément sur ces manifestations, et notamment celles de Paris, vous avez, avec raison, me semble-t-il, questionné cette pseudo-unité nationale, car une très importante partie de la population française n'était pas dans ces manifestations, bien qu'elles fussent considérables, pour des raisons multiples. Elle ne se sentait pas de défiler derrière certains chefs d'État, elle ne se sentait pas concernée, elle se sentait tenue à l'écart, sans pour cela être ennemie de la République ou terroriste.
C'est une question assez difficile, car c'est toujours un problème de sensibilité. Ma sensibilité est historique. Et déjà, l'Union nationale, la dernière qui a été connue en France, c'était en juillet 14. Donc, on voit les résultats que cela a donné. Je ne suis pas très sensible à l'Union nationale, mais j'ai été très sensible au flot humain qui a défilé lors de la manifestation contre le terrorisme à la suite des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Seulement, en même temps, j'ai l'esprit critique. J'ai vu défiler, j'étais à Strasbourg, des milliers de gens. C'était la plus grande manifestation qu'il y ait eu à Strasbourg, probablement depuis la Libération.
Comme à Paris, d'ailleurs.
Je n'ai pas vu beaucoup de jeunes filles à foulard islamique ou de dames d'un certain âge à foulard islamique, alors que j'en vois tous les jours et que j'ai d'excellents rapports avec elles. Et j'ai vu un flot de pancartes soutenant Charlie Hebdo et protestant contre l'assassinat des gens qui travaillaient pour ce journal. J'en ai vu beaucoup moins pour protestant contre l'assassinat des Juifs et des Juifs de la Porte de Vincennes, de la policière de Montrouge, dont on parle très peu d'ailleurs. Et je l'ai immédiatement remarqué. J'ai regardé le lendemain les photos de toutes les villes de France. J'ai eu la même impression. Et puis les émissions de radio, toutes consacrées à Charlie Hebdo. D'ailleurs, même ici, dans le hall de Radio France, les photos sont toutes consacrées à Charlie Hebdo. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas parlé non plus autant des assassinats de la Porte de Vincennes. Car c'était aussi potentiellement, je ne sais pas s'il l'était réellement, mais c'était aussi des citoyens français. Et je me suis demandé s'il y avait eu seulement les assassinats de la Porte de Vincennes, la manifestation aurait été aussi importante.
Ce que vous dites donc, Gérard Fussmann, c'est que derrière cette unité nationale, il y a aussi une scission, une conflictualité nationale ?
Je pense que c'est une manifestation qui est une réaction de sentiments. C'est-à-dire que tout le monde a été choqué et a été heurté par la violence de l'attentat contre Charlie Hebdo, qui a été suivi quasiment pendant 48 heures à la télévision, en direct, jusqu'à ce que les deux assassins soient tués. Et que le sentiment de l'atteinte à quelque chose qui paraissait très français a été beaucoup plus grand que le sentiment de l'assassinat de quatre personnes qui n'avaient comme seul tort que d'être juives et d'être manifestement juives, puisqu'elles étaient dans un magasin juif, et que l'assassinat de la policière de Montrouge. Moi, j'aurais préféré qu'on traite toutes les choses sur le même plan et qu'on manifeste contre le terrorisme en général et pas simplement ou pas majoritairement contre le terrorisme à propos de Charlie Hebdo.
Bon, on ne peut pas en même temps reprocher à ces manifestations d'avoir eu lieu, d'avoir eu cette ampleur. Mmh. Et si vous dites qu'il faut dépasser l'émotion pour analyser les composantes politiques de ces événements, déjà le sursaut et la présence dans la rue d'un nombre extrêmement important de Français dans tous les coins de la France était remarquable.
C'est tout à fait remarquable, mais j'ai remarqué le nombre d'interventions du président de la République et du Premier ministre en particulier à propos de Charlie Hebdo et de la liberté d'expression. Je suis entièrement d'accord avec eux. Monsieur Hollande et Monsieur Valls ont eu de très belles paroles sur les meurtres de la porte de Vincennes. Mais dans l'ensemble de l'opinion publique, c'est surtout Charlie Hebdo qui a frappé l'imagination. Et je crois que les assassinats de Charlie Hebdo et les assassinats de la porte de Vincennes ont la même importance.
Très bien. Donc, au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, Gérard Fussmann, c'est qu'il faudrait faire un sort particulier aux attaques antisémites derrière...
Je ne dis pas cela. Je n'ai pas l'obsession de l'antisémitisme. Mm-hmm. Je dis simplement que les organisateurs de la manifestation, qui n'étaient pas les organisateurs officiels, au début c'était une manifestation de gauche, se sont ensuite joints à ça les partis de droite, et puis le gouvernement a pris les choses en main. Mm-hmm. Or, le fait que le gouvernement prenne les choses en main font qu'il a invité ou a laissé M. Netanyahou s'inviter et que le caractère de la manifestation qui devait être une manifestation pour tous les Français s'est trouvé être le caractère d'une manifestation pour tous les Français qui n'avaient pas été émus par les massacres de Gaza. Ça excluait les musulmans. Et comme M. Netanyahou était là et qu'il était censé représenter les Juifs de France, ou alors on se demande ce qu'il faisait là, ça excluait également les Juifs de France, en particulier ceux, et qui sont nombreux, qui ne sont pas sionistes et qui sont, même quand ils sont sionistes, sont encore plus opposés à la politique de M. Netanyahou qui amène l'État d'Israël à la catastrophe.
Vous avez été énervé, je crois, Gérard Fussmann, par les remarques illégitimes de Benjamin Netanyahou concernant les Juifs de France, remarques auxquelles le président de la République n'a pas répondu stricto sensu, mais auxquelles M. Valls a répondu.
Il a répondu très dignement, mais il a été le seul. Ça n'a pas été relevé. Ça n'a pas été relevé par la presse française. Et autant que je sache, ça a été très peu relevé par les milieux, disons, représentatifs juifs, comme le CRIF. Il y a aujourd'hui un article dans Le Monde de M. Lévy qui, je crois, remet un peu les choses en place.
Alors, une autre question que je voudrais vous poser, Gérard Fussmann, touche à ce qui se joue autour des questions des caricatures de Mahomet et du blasphème et de la liberté d'expression. Comment devons-nous défendre et pratiquer la liberté d'expression de façon responsable en France, alors qu'il y a tant de pays dans le monde qui en sont privés? Et pourriez-vous nous dresser un tableau comparatif de ces pays privés de cette liberté d'expression?
C'est une longue question. Je dirais que quand M. Sarkozy était président de la République, je me disais que je vivais quand même dans un très très beau pays qui permet l'expression de caricatures qui parfois n'étaient pas très tendres pour le président de la République. Les caricatures de Charlie Hebdo sur la religion ne m'intéressaient pas beaucoup, mais ça fait partie de la liberté d'expression. Et dès qu'on limite la liberté d'expression, eh bien, ça ne s'arrête plus. Le blasphème en pays musulman n'a pas de définition. Tout ce qui est contre le Coran, tout ce qui est contre la religion musulmane telle qu'elle est prêché aujourd'hui par un imam ou un ouléma d'un pays du monde, peut être sujet à l'accusation de blasphème et à une punition qui peut être grave. Je rappelle qu'en ce moment, en Arabie Saoudite, un des alliés des États-Unis qui intervient militairement contre Daesh, un blogueur musulman est condamné à 1000 coups de fouet pour avoir traité, d'après un tribunal islamique, irrévérencieusement de la religion. Et ces 1000 coups de fouet, il les reçoit à raison de 50 coups par mois. Il en a déjà reçu 100. Alors voilà, le choix est là. Ou bien la liberté d'expression est totale, ou bien elle disparaît peu à peu. Il y a des pays où la liberté d'expression était relativement grande, par exemple le Pakistan dans les années 50-60, où actuellement elle est nulle.
Oui, vous dites que le Pakistan, un pays que vous avez beaucoup, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, a radicalement changé depuis la présence des talibans.
Ah non, il a commencé à changer à la fin des années 80, après la dictature de Ziaul Haq, qui a consciemment islamisé la société. Et ce qui fait que, peu à peu, les éléments musulmans croyants, mais les plus éclairés, ont été forcés d'émigrer, ils se retrouvent maintenant à Londres, au Kenya, aux États-Unis. Il n'est resté dans la société musulmane pakistanaise que les pauvres, et ceux qui ne pouvaient pas trouver d'emploi à l'étranger. Et évidemment, comme en plus s'y ajoutait une menace sur les vies, l'islamisation était totale. Écoutez, il y a un détail affreux que je peux vous donner. La population du Pakistan est presque totalement musulmane. Mais il y a des attentats sans cesse dont on ne parle pas, beaucoup plus fréquents qu'en Afghanistan, et des attentats à la bombe. Les attentats à la bombe, évidemment, les corps ne sont pas intacts. Or, en islam, il n'y a pas de cercueil. On enterre dans un linceul. Vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un qui a été victime d'une explosion dans un linceul. Donc, depuis 2 ou 3 ans, se développe au Pakistan une petite industrie de fabrication de cercueils uniquement dédiée aux victimes d'explosions.
Détail en effet bien macabre. Gérard Fussmann, quelle conception de la laïcité a le rationaliste que vous êtes ?
Ma laïcité, ça consiste à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à la liberté de penser et de s'exprimer. Je suis presque naturellement agnostique. En plus, je suis d'un esprit très critique et donc je ne crois pas beaucoup au message religieux et surtout à son message historique, à ses prétentions à la révélation. En même temps, l'école où j'ai été élevé, qui était l'école laïque française, d'une part, rappelait un certain nombre d'événements qu'elle ne raconte peut-être plus maintenant. Par exemple, le massacre des Cathares, le bûcher d'Étienne Dolé, la Saint-Barthélemy et autres petites plaisanteries, si j'ose dire, de ce genre. Ça voulait dire pour moi que l'on ne pouvait pas vivre sans, si la religion était dominante. Et effectivement, si je vivais aujourd'hui au Pakistan, ou peut-être dans certains pays catholiques comme l'Espagne, je ne pourrais pas dire tout ce que je suis en train de vous dire ici.
En Espagne d'aujourd'hui ?
Non, l'Espagne de Franco. L'Espagne de Franco. Et ça, c'est une chose. La seconde chose, j'appartiens à une génération où on croyait à la paix du monde et à la fraternité. Et si j'ai trouvé une très grande fraternité parmi les croyants, je ne méprise pas du tout les religions, elles ont de bons côtés. Si j'ai trouvé une très grande fraternité envers les croyants, je ne l'ai jamais trouvée envers les croyants d'une autre religion. Je crois que la laïcité, c'est le seul moyen qu'il y ait une fraternité entre les hommes, qu'ils soient croyants ou non. Ou alors, il faut croire au message de l'Évangile et l'appliquer, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres.
C'est sur ces paroles, Gérard Fussmann, que nous allons clore cette émission. Je remercie Jason Taous et Dany Journaud qui ont rendu possible cette émission. Je signale aux auditeurs de France Culture que le texte de Gérard Fussmann que j'ai cité se trouve actuellement sur le site de l'Union Rationaliste. Et je vous dis au mois prochain.